Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 22 avril 2021. Hier, j'ai parlé avec un journaliste qui m'a demandé si les deux jours de baisse que nous venions de vivre sur les marchés n'étaient pas enfin le signe que nous étions arrivés au bout du bull market et que le crash était arrivé. Si c'était si simple, 2,5% de baisse sur deux jours et hop, le crash est là, il n'y a qu'à laisser traîner des limites 50% plus bas et on sera riche dans 18 mois après le 28e rebond initié par le soutien inaltérable des banquiers centraux qui sont tellement forts que l'on ne sait même pas d'où vient tout l'argent qu'ils injectent dans les économies, un peu, et dans les bourses mondiales surtout, probablement d'une dimension parallèle que seuls les Avengers peuvent connaître, reste à savoir quel est le nom de super-héros de Powell ou de Lagarde. Ce n'est donc pas si simple. À quel moment va-t-on décider que c'est le début du crash? Comment on sait que cette fois, ça y est? Eh bien justement, on ne sait pas. Parce que si on savait, ça serait trop facile. En général, un crash est là quand on se prend des claques magistrales de 5% sur les indices 2 ou 3 jours de suite et que notre seule obsession, c'est de trouver les meilleures opportunités d'achat. Et que l'on ne se rend même pas compte que le château de cartes est en train de s'effondrer là, juste à côté de nous. Quoi qu'il en soit, les deux jours de baisse sur les marchés US qui ont été engendrés par la peur du Covid et par l'angoisse de voir arriver un variant indien ou breton ou suisse-allemand sur les marchés ont vite été mis de côté. Lorsque bon nombre de stratégistes sont venus dans les médias pour dire que la baisse créait des opportunités, surtout parce que la croissance long terme n'est pas remise en cause. Ça, c'est surtout la phrase qui a été donnée, citée le plus au sujet de Netflix hier. Pour le reste, on a bien noté que les gens sont repartis dans leur stratégie « value versus growth ». Au-delà de Netflix, qui se prenait 7,4% dans les dents, le reste des chiffres qui étaient publiés étaient bons. Et d'ailleurs, même les chiffres de Netflix étaient bons. Les mouvements qui suivent les publications sont clairement induits par l'interprétation des chiffres et pas par leur qualité. Le principe est assez simple. Vous prenez une société qui publie demain, le consensus attend 50 cents par action, un revenu en hausse de 15% et un net profit de 250 millions sur 3 mois. La société en question publie 65 cents par action, des revenus en hausse de 22% et un net profit de 300 millions et le CEO se dit content du trimestre et prudemment optimiste pour le trimestre suivant. La réaction sera donc la suivante. Tout d'abord, la vexation, parce que l'on s'est complètement planté dans nos prévisions de résultats, ce qui arrive à peu près une fois sur deux, un peu comme à pile ou face. Donc comme on est vexé, on n'est pas trop enclin à acheter la boîte, histoire de ne pas faire plaisir au CEO qui nous a humiliés devant des millions de gens, gens qui auront d'ailleurs oublié notre nom dans les 22 minutes qui suivent, mais cela n'a que peu d'importance. La vexation doit être vengée. On va donc chercher la petite bête dans l'ensemble du communiqué de presse de la société, histoire de pouvoir dire du mal. Dans l'exemple qui nous occupe, la petite bête, c'est le CEO qui a dit « prudemment optimiste ». On s'en fout du mot « optimiste », on va s'accrocher au mot « prudemment ». D'ailleurs, tout le monde sait que dans le mot « prudemment », si on enlève un R, un D, deux M, un E et un T, ça fait « pu ». Et là, on tient notre argumentaire. Le CEO a voulu dire que ça puait pour le trimestre suivant. Il faut donc vendre, parce qu'en plus, le titre est très bien monté et qu'il est temps de prendre les profits parce que finalement, ils n'étaient pas terribles, ces résultats. Bref, en ce moment, on interprète les chiffres du trimestre plus qu'on les analyse. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est un grand classique de la prévision boursière. Déjà que la finance est une science à peu près aussi précise que l'astrologie, mais en plus, quand on est en plein recovery post-pandémie mondiale avec potentiellement un nouveau variant qui apparaît toutes les 12 minutes pour permettre à Pfizer et à Moderna de décliner des nouvelles versions de leur vaccin, ça n'est pas simple de juger des résultats d'une société. On peut donc comprendre les hésitations lors des publications. C'est un peu ce qui est arrivé à Abbott hier soir. Les mecs, ils ont fait tout juste. Ils ont battu les attentes dans tous les coins et le titre perdait 3,5%. Par contre, pendant ce temps, il y a des nouvelles IPO sur l'intelligence artificielle qui prennent 26% le premier jour et qui sont déjà valorisées à près de 40 milliards. Sans compter qu'il y a des crypto-monnaies qui ne valent rien, mais qui sont en hausse de 8700% sur 12 mois. Mais à la fin de la journée, la question principale reste quand même de savoir pour quand est le grand reset des marchés boursiers. Ce matin en Asie, on fait comme aux USA. Il y a deux jours, on flippait comme des dingues sur le rebond du Covid. Et là, tout de suite, le Japon rebondit 2%, Hong Kong monte de 0,45% et la Chine ne fait rien. Il faut reconnaître que nous sommes quand même super forts dans le rôle de la girouette. Une chose est sûre, lorsque je vois comment ces marchés se comportent, j'ai de plus en plus de peine à croire qu'il y a une réflexion humaine derrière des swings de marché et des sentiments et de sentiments aussi violents. D'ailleurs, hier, à l'ouverture de New York, lorsque les marchés ont plongé, un expert disait, en enlevant ses lunettes de soleil à branches fines, « C'est les algos qui réagissent comme ça, parce que dans les marchés où les évaluations sont si élevées, la moindre déception dans un résultat trimestriel, en l'occurrence Netflix, déclenche des ordres de vente automatisés. » En gros, les algos mettent la pression sur les investisseurs, et si les investisseurs ne tombent pas dans le panneau et profitent de l'opportunité d'achat offerte, les algos vont pagayer dans l'autre sens pour récupérer dans le rebond en achetant tout et n'importe quoi pour finalement propulser le Dow Jones de 150 points dans les 15 dernières minutes de trading. Sincèrement, des fois, je me demande si c'était pas mieux avant que l'on file les clés du bureau aux ordinateurs. Donc, ce matin, l'Asie rebondit histoire de faire comme à Wall Street. Et en revanche, il y a pléthore d'analystes techniques qui viennent mettre en garde sur le fait que le Bitcoin est sous sa moyenne mobile des 50 jours, depuis 4 jours, et que plus on y reste longtemps, plus il y a des chances de voir la star des crypto-monnaies descendre sur les 40 000 dollars avant de remonter, bien sûr, à 1 million. Le niveau à ne pas casser se trouverait, semble-t-il, à 52 000 dollars. Pour le moment, on a 2 000 dollars de marge, mais on sait aussi que 2 000 dollars sur le Bitcoin peuvent être poutsés en 3 minutes. L'or est en embuscade, juste en dessous des 1800. Alors, je suis pas loin de penser qu'il attend que le Bitcoin descende en dessous des 52 000 pour nous faire un truc. Là aussi, on va nous parler de rotation de secteur out of crypto in gold. Et puis, pour terminer, il y a le pétrole qui a 2 jours de retard parce que lui, il baisse à cause de la résurgence du Covid qui a angoissé les marchés il y a 48 heures. Pour le moment, le baril est à 61,05 et tente de respecter les distances sociales. Pour ce qui est des nouvelles du jour, on parle pas mal de Biden. Biden qui doit réformer la police depuis le verdict de Derek Chauvin. Il se pourrait que les flics soient armés avec des bombes à eau et des ballons mousse à l'avenir pour éviter toute bavure. Surtout que depuis le verdict, 2 personnes de couleur ont été abattues par la police. Bon, une des deux attaquée à une victime à coups de couteau, c'est peut-être une excuse valable. Mais Biden devrait aussi tout prochainement reconnaître le génocide arménien, ce qui devrait remplir de joie les autorités turques et leur gentil président à vie. Et toujours au stade politique, alors que tous les États occidentaux hurlent à la mort et aux sanctions contre la Russie dans l'affaire Navalny, Poutine a prévenu qu'il ne fallait pas dépasser la ligne rouge. Alors on sait pas trop ce que ça veut dire, mais je suis pratiquement certain que ça serait quand même plus simple de rester du bon côté de la ligne. Autrement, Draghi met en place un plan de soutien de 220 milliards en Italie et on attend avec impatience la réunion de la BCE cet après-midi. On espère avoir un peu plus de détails sur l'art et la manière du soutien qui sera mis en place par Madame Lagarde. Pour autant qu'il y ait un soutien et qu'il reste de l'argent pour ça. On notera aussi que la SEC met son nez dans les SPACs, pas dans les tweets de Musk, mais dans les SPACs, ce qui devrait faire moyennement plaisir à certains. On peut aussi retenir que Peugeot repasse au compteur à aiguille parce qu'ils n'ont plus assez de semi-conducteurs et que Carrefour lance un plan de rachat d'actions après un trimestre solide, même si on leur a interdit de vendre des collants, des chaussettes et des slips. Et puis, une des scientifiques qui a aidé à développer le vaccin Pfizer-BioNTech a confirmé la chose. Il y aura vraisemblablement besoin d'une troisième injection car comme le dit le proverbe, jamais 203, surtout tant que j'ai pas fini de payer ma résidence secondaire à Aspen. Du côté des chiffres économiques, il y aura la réunion de la BCE et les jobless claims aux USA. Pour ce qui est des trimestriels, il y aura Nestlé, Intel, AT&T, Snap, SAP, American Airlines et le Crédit Suisse qui va expliquer comment ils ont réussi à rater une exposition de 20 milliards puisqu'apparemment la risk manager n'était même pas au courant de l'affaire Archegos jusqu'à 48 heures avant. J'aurais tendance à leur suggérer d'engager Jérôme Kerviel comme consultant. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,05%. Je ne veux donc pas vous mettre en retard pour votre terrasse du jour vu que c'est devenu la première préoccupation actuelle, juste avant celle de savoir si on se fait vacciner 3 fois au Pfizer ou 1 fois à l'AstraZeneca avec une chance sur 10 millions de mourir tout de suite et de rater la terrasse du jour. Passez une excellente journée et moi je vous retrouve demain au même endroit et à la même heure.